Je vais prendre quelques secondes pour trafiquer ici l'ordinateur pour qu'on puisse se connecter là-bas pour la projection. Pour la petite histoire, quand j'ai su que j'allais prêcher aujourd'hui, j'avais déjà commencé à chercher quelques thèmes dans ma tête et dans mon cœur. Et voilà, un jour j'arrive ici à l'église et François il prêche sur ce thème-là. Donc il prêche sur Esdras. Après je dis, bon, je vais changer de thème. Devinez. Après je me suis dit, je vais prêcher sur Néhémie. Il y a François qui a prêché sur Néhémie. Bon, je me suis dit, François, là, il ne me rend pas facile la tâche. Mais je me suis dit, c'est peut-être un message pour moi, tout ça. Et c'est vrai que dans ces deux précautions-là, François, il a... Le thème central, entre autres, hein, il y a un thème central, un fil rouge, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je tiens, le Seigneur l'a mis dans mon cœur, pour vous parler de la Bible. Mais avant tout ça, je vais vous inviter à entrer dans la prière, pour que ce soit le Seigneur qui nous conduise ce matin. Ô Éternel, merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir se rassembler autour de toi en Christ, en toute liberté, une liberté physique, mais surtout une liberté de l'esprit. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ton esprit qui est notre maître, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous dévoile le Christ dans nos vies. Je remets Seigneur toutes les choses dans tes mains ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, merci. Donc je tiens à vous parler de la Bible. Donc une première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu ou pas? On pourrait se dire que pour un chrétien, la réponse est évidente. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Et peut-être pour un non-chrétien aussi, la réponse est évidente, donc... Pas forcément. Moi, je dirais que non, parce que pour un non-chrétien ou un non-croyant, la Bible était la parole de Dieu, normalement, il devrait être chrétien, a priori. Bon, ça pourrait l'être. Et je tiens à vous montrer ce verset-là de 1 Corinthiens. J'avais cité entre ce verset-là et ce verset classique de Timothée 3,16 qui dit que l'Écriture est inspirée par Dieu. Mais là, je tiens plutôt à vous partager ce verset-là, parce que ce verset nous dit qu'effectivement la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une folie. Et c'est vrai que nous-mêmes, quand on n'était pas chrétien, quand on n'avait pas rendu notre vie au Christ, on croyait sûrement que la Bible, que la parole de Dieu, est une folie. On trouvait fous les chrétiens. Mais il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est que même si pour un chrétien la Bible est la parole de Dieu, la question qu'on peut se poser en deuxième degré, c'est se dire, est-ce que la parole vraiment, je la vis comme la parole de Dieu? Est-ce que dans ma vie, dans ma réflexion de tous les jours, de la vie quotidienne, est-ce que vraiment la Bible, la parole de Dieu, prend de la place dans ma vie, qu'elle devrait prendre? Et là, on peut même aller bien loin et être face à des mouvements, même chrétiens, qui mettent en doute aujourd'hui la parole de Dieu, mettent en doute la authenticité de la Bible. Mais mon but ce matin, c'est pas de rentrer dans ces jeux-là, donc c'est pas de vous montrer, ni essayer de défendre la Bible ni la parole de Dieu, parce que elle s'est défendue déjà depuis qu'elle existe. Je n'ai pas à la défendre. Il y a Dieu qui la défend. Mais par contre, je veux vous inviter à partir de quelques éléments de réflexion par rapport à des aspects qui peuvent être intéressants par rapport à la authenticité de la Bible en tant qu'un livre, en tant qu'un bouquin, qui devrait nous aider à réfléchir par rapport à la place que la parole de Dieu a dans notre vie. Comme d'ailleurs dans ces prédications-là de François, quand il nous a prêché sur Esdras et Néhémie, là on a été témoin de comment un réveil a eu lieu dans la période de la construction du temple, la construction du mur de Jérusalem. Et à la base de tout cela était la parole de Dieu. La parole de Dieu jouant un rôle fondamental. Il y a un sociologue allemand, Niklas Luhmann, qui est décédé il y a deux décennies déjà. Et c'est le grand sociologue du XXe siècle qui, lui, il a proposé une théorie sociologique de la communication qui a remis en question toutes les fondements de la sociologie moderne. Et donc, pour lui, la communication est improbable entre les êtres humains. Parce que personne ne peut être dans la pensée de l'autre. Donc on peut arriver par quelques moyens à essayer de comprendre, on peut arriver à comprendre quelques idées qu'on peut transmettre. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on a un avantage. Parce que face à la Bible, face à la parole de Dieu, nous, on a l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, et qui vient nous révéler la volonté de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de la pensée de Dieu même. Donc on a cet aide incroyable en nous, le Saint-Esprit, qui peut nous expliquer, qui peut nous faire comprendre, qui peut nous dévoiler, et il le fait d'ailleurs, la volonté, le message de Dieu. Donc, quand on parle même en tant que chrétien de la Bible, la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est pour vous? Et je vous invite aussi à se poser cette question et à faire un petit bout de chemin de réflexion par rapport à ça. La parole de Dieu, c'est ce que quelqu'un comme moi maintenant est en train de prêcher. La parole de Dieu, c'est les textes qu'on lit dans la Bible, dans nos réflexion quotidienne. Et qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu nous dit à nous, dans l'intimité de notre cœur, de nos pensées, de notre réflexion personnelle. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, moi, plein fois, être là, écouter une prédication, et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait dans ma tête, dans mon cœur, et je pars sur une réflexion personnelle pendant la personne qui est en face de moi est en train de prêcher. Et peut-être cette réflexion-là n'a rien à voir avec le thème de la prédication. Mais c'est à ce moment-là que Dieu, il est en train de me parler. Il est en train de me parler. Je vais me permettre une petite licence de temps en temps de dire quelques mots comme ça, quelques phrases en espagnol pour José qui ne parle pas français, donc décidez juste clair. Hein, donc rassurez-vous, je ne vais pas prêcher en espagnol ni dans les deux langues, hein, mais en tout cas, c'est les quelques idées clés. Estaba diciendo José que el objetivo de esta predicación tiene que ver con cómo nos posicionamos con respecto a la palabra de Dios, si la palabra de Dios es realmente o tiene lugar central en nuestra vida, en la vida diaria. Et donc, je vais vous montrer cette. J'ai préparé un petit diaporama. Vous savez, c'est ce que c'est pour les couleurs. J'ai essayé de chercher ce qui soit plus facile à bien lire. Hein. Donc, après, pour les couleurs. Et donc, quand on se positionne par rapport à la Bible, on peut réfléchir par rapport à la révélation, à comment elle a été révélée, la Bible, la ces versets-là, je ne vais pas les lire maintenant, mais voilà, ça vient de là. Ces versets-là vont nous dire qu'effectivement, Dieu il s'est révélé à nous par la nature. Et il y a eu aussi, ça c'est la révélation naturelle, il s'est révélé aussi par la révélation directe, donc quand Dieu même, lui, il a parlé aux prophètes, il a parlé aux rois, il a parlé aux personnes qu'il a désignées à un moment donné, il a parlé à travers Jésus-Christ même. Donc lui-même, révélation directe, parce que c'est lui la parole de Dieu. Ce qui nous dit justement le verset de Jean 1, tout le chapitre presque, hein, du verset 1 jusqu'au verset 18, que au début, au commencement, était la parole. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Après, une autre notion auquel on peut réfléchir, c'est la Bible, parole de Dieu et les Écritures. On peut dire, voilà, la Bible, c'est une parole écrite. Donc souvent, on a tendance à penser que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'audible. Mais voilà, la Bible elle-même, elle nous montre que les Écritures, c'est dans certains cas une transcription du message de Dieu, et dans d'autres cas, c'est un message qui a été inspiré. Il y a un cas dont Dieu il a participé directement, c'est les 10 commandements. Quand Dieu il est monté, il a donné la loi à Moïse, la Bible nous dit que c'est Dieu même qui, avec son doigt, il a écrit les commandements. Donc là, on voit la participation directe de Dieu dans les Écritures. Et ces versets-là qui sont là, qui sont les mêmes versets, je ne vais pas tous les lire, j'ai juste remarqué quelques idées clés. Et il nous montre déjà comme la Bible, elle fait tout le temps cette référence à l'Écriture et en même temps à la parole de Dieu. L'Écriture comme la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Donc voilà, on peut voir tous ces versets-là qui attestent ça. Et quand on revient à l'idée de la révélation directe, je l'ai dit tout à l'heure effectivement que Jésus, lui-même, il a été la révélation directe de Dieu. Dans la prière sacerdotale de Jean 17, Jésus, quand il prie au Père, il a dit, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais avec toi au commencement. J'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. J'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. J'ai passé le message. » Et donc, quand on parle de la parole de Dieu, on va parler, comme je disais tout à l'heure aussi, du message. Et d'ailleurs, le mot « message » ou « messager » apparaît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, dans la Bible, le Nouveau Testament, et est toujours utilisé pour celui qui Dieu a envoyé pour faire passer un message particulier. Par rapport à la parole de Dieu, une référence rapide à l'idée que de Genèse 1, on voit que Dieu dit et les choses ont été faites. Et les choses ont été faites. Le pouvoir de la parole, le récit de Genèse 1, il nous parle de ça. L'autre jour, on avait, entre frères, on avait justement discuté par rapport au récit de Genèse, si ça avait été fait en 7 jours, si les 7 jours c'est vraiment littéral ou c'est 7 périodes de quelque chose, mais que ce soit 7 jours, que ce soit 7 semaines, que ce soit 7 secondes, Dieu il aurait pu faire aussi tout en 7 secondes. Donc je pense qu'effectivement la réflexion n'est pas là, sinon plutôt dans le fait que Dieu il se montre à nous comme un Dieu créateur, celui qui nous a créé et que lui il a suivi un ordre, il a suivi une certaine logique et qui avait un programme pour nous. Et c'est ça qui est relevant. D'ailleurs, Paul, dans le Nouveau Testament, quand il fait référence à tout cela, en hébreu, hébreu 13, hébreu 11, 2 et 3, il reste pas dans la petite réflexion de si c'était une semaine, c'était des jours littéraux ou pas, ou des choses comme ça. Sinon, il fait référence à que on croit à la création, on croit à ce Dieu créateur par la foi. Et justement, on va voir tout à l'heure que la foi prend sa place aussi dans cette trilogie qui réunit d'un côté la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou orale, la personne du Saint-Esprit qui est là pour nous expliquer la volonté de Dieu, pour nous dévoiler le message de Dieu dans nos cœurs, parce que c'est quelque chose que les non-croyants, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne peuvent pas comprendre. C'est réservé à nous. Et une dernière mention par rapport à l'idée des Écritures. Donc, les Écritures, le texte physique, le livre, on voit bien que Jésus, à plusieurs reprises, il a dit dans le Nouveau Testament qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, sinon plutôt pour l'accomplir. Et quand lui parlait de la loi, il parlait particulièrement de la Torah. Mais à d'autres reprises, à d'autres moments, il a dit la loi et les prophètes. Donc quand là il dit la loi et les prophètes, il va parler de la Tanakh, donc de tout l'Ancien Testament tel que nous l'avons aujourd'hui, sauf que dans une autre distribution, mais c'est exactement le même livre. Donc lui il a dit, je ne viens pas abolir la loi, je viens l'accomplir. Donc après il fait référence à Moïse, il fait référence à la loi, aux prophètes. Donc encore une fois, il dit et il atteste la authenticité de ce message-là. Lui, il est le pont entre la révélation de l'Ancien Testament et la révélation que lui, il est en train de nous donner et qui va s'achever après dans la création de ce merveilleux livre que c'est la Bible. Et en dernier, l'idée de la Bible, c'est les deux couleurs à votre droite, en bleu là. Et la Bible en tant que message des dieux, donc inspiré, comme le dit 2 Timothée 3,16. Hein. Toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Convaincre de, comme le dit Jean aussi, de péché pour le salut. Jean 14, 10 nous dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas de moi-même. Parce que c'est le Père qui lui avait donné ces paroles-là. Donc en revenant sur la petite image, on voit bien que la Bible elle-même, elle atteste qu'elle a été inspirée. Et dont le Saint-Esprit joue ce rôle central dans cette inspiration. Parce que c'est lui qui conduit les hommes. Et autre chose, c'est la Bible en tant que l'épée de l'Esprit. C'est justement Éphésiens 6, 17 qui nous parle de ça. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Estaba diciendo José que Dios a través de la Biblia hace una revelación natural y directa y la palabra de Dios toma una fuerza en nuestras vidas como la palabra del Verbo, como Jesús que fue el creador de todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten, y como la palabra de Dios siendo inspirada también es instrumento para que nosotros podamos trabajar y servirnos con ella como la espada del Espíritu. Y là, cuando on parle de l'épée de l'Esprit, déjà, on avait déjà un petit peu eu cette image il y a quelques temps quand Jean-Paul Tabaret, justement, il parlait de l'étude sur Éphésiens. Et on est arrivé à un moment donné sur l'armure hein, du chrétien et on voyait comme l'épée d'esprit. C'est le seul élément hein, de toute l'armure qui est un élément avec lequel on peut utiliser pour attaquer. Attaquer en tout cas dans un contexte de défense tel que notre Seigneur Jésus même, il l'a fait quand il a été tenté. Quand il a été amené dans le désert, et Jésus, il a dit à 2-3 reprises, il est écrit que. Il n'est pas rentré à se bagarrer avec, avec le diable, il lui a tout simplement, à deux, trois reprises, cité l'Écriture. L'Écriture. Donc, si on fait un point de réflexion, on pourrait se dire, voilà, qu'est-ce que la Bible est vraiment pour moi? Est-ce qu'elle représente la parole de Dieu? Est-ce que je vois en elle vraiment le message de Dieu pour moi? Est-ce que je la lis? Est-ce que je l'étudie? Est-ce que je la sonde? Est-ce que je vais vers elle à chaque fois pour retrouver en elle le message de Dieu pour moi? Un message de Dieu qui va m'édifier en tant que chrétien, qui va nous édifier en tant que corps du Christ. Et je tenais à vous partager tout ça parce que aujourd'hui, il y a un nombre immense des mouvements chrétiens qui tiennent à dévaloriser l'autorité de la Bible. Et je veux juste faire une petite nuance entre ce qui est l'Écriture et l'impression parfois de ce livre-là, en tant que bouquin. On peut trouver des imperfections. J'ai déjà trouvé déjà deux ou trois dans la seconde, sûrement d'impression ou de mauvaise correction orthographique. Mais est-ce que ça met en question ce livre-là, comme la parole de Dieu? On verra ça vraiment de façon succincte tout à l'heure. Et donc là, on va faire un focus sur la parole de Dieu. Et donc, dans cette image-là, on voit comme la parole de Dieu en tant que volonté de Dieu, la parole de Dieu liée à la foi. D'ailleurs, justement, Romains 10, 17, il nous dit que la foi, elle croit en nous, elle grandit en nous, par la parole. Quand on écoute la parole de Dieu. Quand on l'écoute quand quelqu'un prêche, quand on l'écoute quand on la lit, quand la parole de Dieu résonne en nous, la foi en nous, elle grandit. La parole de Dieu, comme une force créatrice, la vie même, la lumière, Dieu le créateur, la parole de Dieu, la lumière qui nous guide dans nos vies quotidiennes, dans l'obscurité de ce monde dans lequel nous vivons. La parole de Dieu vivante, efficace, tranchante, puissante, comme le dit Hébreux 4, 12. Et la parole de Dieu, elle est vivante, parce qu'elle va parler là où nous, on en a besoin qu'on nous parle. Parce que Dieu, il nous connaît. Et donc, c'est la parole de Dieu. Elle va résonner en nous, d'une part parce que on étudie, on lit, on utilise l'Écriture, ce livre-là, et par le travail du Saint-Esprit. Là, on voit la conjonction de ces deux aspects-là qui sont relevants. Et la parole de Dieu comme celle qui va nous sanctifier, qui va nous édifier. L'idée de la parole de Dieu ici gira en torno a estas seis ideas claves. En relación a la fe, al Espíritu Santo, a la fuerza creadora, a la palabra de Dios como algo vivo y eficaz que trabaja en nuestros corazones. Donc on voit que la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivante. C'est quelque chose qui va remuer nos cœurs. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous connaît. Qui nous connaît. Et je tiens à lire ce verset de Ésaïe 55, 11, par rapport à la volonté de Dieu, qui dit « Ainsi en est-il de ma parole ?»« Ainsi en est-il de ma parole ?» Qui sort de ma bouche. De ma bouche, c'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans ses faits. Quel est fait ? Les faits selon la volonté de Dieu, sans savoir exécuter ma volonté et accomplir mes desseins, comme on peut le lire hein, en Genèse 1. Dieu, il a dit, et il fut. Dieu, il a dit, et il fut. Timothée, 1 Timothée 4, 5, comme je disais tout à l'heure, parce que la parole nous sanctifie. Jérémie, qui nous dit que la parole, c'est comme un marteau qui brise le roc, parfois, de notre cœur. Hébreux, qui nous rappelle que la parole de Dieu était vivante, efficace. Efficace parce qu'elle accomplit la volonté de Dieu. Et Hébreux 11, qui nous rappelle que c'est elle a un pouvoir créateur. La parole, elle crée. Et donc là, tout à l'heure, on voyait comme, que ce soit l'écriture, donc les textes, la parole de Dieu comme le message, elle nous renvoie à l'idée de la parole de deux points de vue. Le Saint-Esprit qui travaille d'un côté et Jésus qui est la parole elle-même. Et donc le Saint-Esprit qui travaille en nous et qui nous dévoile la volonté de Dieu et qui permet que la foi, qui permet que la lumière, qui permet que l'efficacité de ses mots, de sa volonté, soit accomplie dans notre vie. Dieu, il nous a décrété juste, et on est juste. Il l'a dit, et c'est fait. Il a décrété que nous sommes justes. Et souvent, je me regarde dans la glace, et je dis, mais juste, moi, je ne suis pas juste. Et je pense que souvent, parfois, on peut se sentir comme ça. Mais aux yeux de Dieu, on est juste, parce qu'il l'a décrété. Il a dit, il n'y a rien qui peut changer. Donc la volonté de Dieu est puissante, parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut en faire au contraire de la volonté de Dieu, qui peut changer ce que Dieu a déjà décrété. Romains, Paul nous dit, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Profitons de lui. Lui, il est en nous. Et il est là pour nous rappeler, pour nous enseigner, pour être notre maître et notre pasteur. Il y a un verset justement plus sur Jean 14 qui dit que le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit, lui, il est là pour nous rappeler, nous enseigner. Mais comment il peut nous rappeler si il n'y a rien à rappeler? Donc il y a en quelque sorte une partie en nous qui doit être faite. Et là, on est passé de la Bible, à l'Écriture, à la parole de Dieu. Et là, on va on va se concentrer sur le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit, ce verset de Pierre nous dit que c'est notre cœur dans le Seigneur qui est sanctifié. Et là, il nous dit aussi qu'avec douceur et respect, devant quiconque nous demande de raison de l'espérance qui est en nous, nous devons défendre. Mais pas dans le sens d'aller contre les gens. D'ailleurs, justement, il le dit avec douceur et respect. Sinon, avoir les arguments, la certitude que ce livre-là, la Bible, et la parole de Dieu. Même s'il y a des problèmes de d'impression, même s'il y a quelques variantes de plus à droite, de plus à gauche, par rapport à quelques traditions de traduction, d'interprétation, d'exégèses, elle reste la parole de Dieu. Et voilà le Saint-Esprit qui est là, que le Père nous enverra, et notre Consolateur, notre GPS, c'est lui qui nous enseignera toutes les choses, notre maître, et qui va nous rappeler tout ce que a dit Jésus à ses disciples, je vous ai dit. Donc, il va vous rappeler mes paroles. Et ces paroles-là, on les trouve aujourd'hui dans les évangiles, on les trouve aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et on les trouve dans toute la Bible, parce que Jésus même, il s'en servit de tout l'Ancien Testament pour nous prêcher, pour nous enseigner, et pour valider encore une fois la parole de Dieu et l'Écriture. Donc voilà ces idées-là qu'on a déjà vues, Écriture, parole, message, et tous ces versets-là qui vont appuyer cette idée-là. Tout au début, là, comme on voit, vous voyez en haut à gauche, la voix de Dieu, parce que c'est comme ça qu'il parlait Adam et Ève dans le jardin. Et après, il y a eu l'écriture, la parole écrite, la parole vivante, Jésus même, la parole audible, et le message de Dieu, qui est celui qui ressonne dans nos cœurs selon la volonté de Dieu. Et Dieu même qui nous dit... Et de la nuée sortit, selon Luc 9, 35, et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoute-le. » Je vais sauter ces versets-là. Et là, je tenais à vous montrer ça. On ne va pas tout réviser, hein, mais c'est juste pour avoir... assez global, et comment Dieu il s'est dévoilé, ou il s'est montré à nous tout au long des temps. La révélation qu'on avait dit tout à l'heure, hein, par la nature, par la providence, comme il a géré, ou il gère aujourd'hui, même les gouvernements, tout ce qui se passe au niveau de ce qui se passe dans le monde, hein, les politiciens, les autorités, c'est lui qui les met en place. Notre conscience, Romain nous dit, Paul nous dit que Dieu il pourra éventuellement nous juger aussi par notre conscience, parce qu'on a une conscience de ce qui est bien et mal en nous-mêmes. L'urim tumim, ça c'est quelque chose de très qui est plutôt lié au grand sacrificateur. C'est quelque chose de c'est une façon très particulière à certains moments de trancher une idée par rapport à la volonté de Dieu. Les rêves, les visions, la voix, la théophanie, les songes, les prophètes, les miracles ou les prodiges, et Jésus même, Dieu même, qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, qui est venu enfin nous parler lui-même. Parce qu'il a tout essayé, il a tout essayé, et je pense que nous, on n'est pas en meilleure position que les anciens. Parfois, nous, l'humanité aujourd'hui, elle est même aussi éloignée et incrédule face à Dieu, face à sa parole, face à son écriture, face à son message. Au point que nous-mêmes, on a tué Jésus, le dernier grand messager. Dieu même, fait homme, qui est venu parmi nous, nous parler lui-même directement. Et il y a quand même des gens qui, en le voyant, des gens qui ont été avec lui, qui l'ont vu, ont vu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, et ils ne sont pas crus. Et ils n'ont pas cru. Là, très, très vite. Faire ce parallèle qui j'ai su de Jésus comme le pont entre une tradition, la tradition hébraïque, donc l'ancien pacte, et le nouveau pacte. Et c'est là que Exode 31:18, ça c'est un verset qui m'interpelle toujours, qui me fait sentir vraiment tout petit, quand nous dit que lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Écrites du doigt de Dieu. Et là, je voulais vous montrer, c'est très rapide, c'est pas un cours d'hébreu, mais ce qui est en haut, c'est l'hébreu moderne, comme on le connaît aujourd'hui, qui
qui vient depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ça, c'est du paléo-hébreu. Donc, si vous voyez, là, il y a déjà une différence. Quand on écrit, la Torah a été écrite en paléo-hébreu. Donc, déjà, c'est une conception assez concrète des choses. Hein, c'est des petits bonhommes hein, qui vont illustrer. D'ailleurs, justement, le mot Alléluia prend ces deux petits bonhommes aussi pour montrer ou exprimer l'idée de louer Dieu.
Et pourquoi vous dire, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est ces témoignages-là en paléo-hébreu et en hébreu ancien qui ont été trouvés à Qumran. Et qui a permis jusqu'à aujourd'hui de pouvoir témoigner, valider et révalider et certifier encore l'authenticité de l'Ancien Testament. Jusqu'à Qumran, les plus anciens textes qu'on avait, ils dataient de l'année 1000 après Jésus-Christ. Et avec Qumran, on a des textes qui datent de 200 ans avant Jésus-Christ. Donc on a gagné 1200 ans en authenticité, et la similitude entre les textes, les traductions d'aujourd'hui par rapport à ces deux types de textes-là est à 89,5% comme est avéré aujourd'hui. Et pourquoi ça c'est tellement important de le signaler? Parce que Jésus même, toute sa prédication a été basée sur l'Ancien Testament. Si vous voyez même aujourd'hui, la réforme, le verset base de Calvin, c'était Habacuc. C'était ce verset qu'on pense que c'est du Nouveau Testament, mais c'est un verset de l'Ancien Testament qui dit que le juste vivra par la foi. Et là, rapidement, juste vous montrer tous les témoins qu'on a aujourd'hui de vieux textes anciens, et qu'on ne met pas en question leur authenticité. Donc, par exemple, les tétralogies de Platon, on a 7 manuscrits conservés aujourd'hui, c'est de l'Indusienne lignée. De la guerre des Gaules, de Jules César, on a 10 manuscrits. Et après l'histoire romaine du Tite Livre, 20 manuscrits. Par contre, du Nouveau Testament, on n'a que les textes en grec, presque 6000. Presque 6000. Mais on ose mettre en question l'authenticité de ce livre-là. Et on peut arriver, dans le cas du Nouveau Testament, jusqu'à 24 000 manuscrits. Hein. Parfois, c'est des petits manuscrits, des petits morceaux, des grands morceaux, des livres entiers. Hein. 24 000 témoins. Si on prend aussi toutes les traductions, ou tous les manuscrits qui ont été écrits dans d'autres langues, donc le syriaque, l'araméen, le latin, par exemple. Là, je vous parle que de textes en grec. Donc Jésus, il vient combler, il vient être le pont entre eux. Son message de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et on peut aujourd'hui être sûr qu'il y a une harmonisation, une harmonie totale. Total. Là, je commence à finir. Là, je vais juste vous montrer, on ne voit pas très bien, c'est presque 1000, hein, 1940 citations qui se font dans le Nouveau Testament en prenant compte des citations de l'Ancien Testament. Presque 1000. En Matthieu, il y a 100. Romains 75, Actes 96, Luc. Plus de 1000 citations. Donc, quand Qumran nous permet aujourd'hui de témoigner la fidélité de l'Écriture, on peut témoigner aussi sur la fidélité de l'ensemble de la Bible. Parce que le Nouveau Testament, du point de vue doctrinal théologique, est construit sur l'Ancien Testament. Estaba diciendo que sobre la veracidad de la Biblia hay un montón de elementos históricos, arqueológicos que vienen a validar la Biblia, y hoy día ponemos en cuestionamiento lo que la Biblia dice cuando hay textos mucho menos antiguos e importantes que ya han sido validados con mucho menos textos como los que podemos encontrar en la Biblia. Et donc là, je m'arrête pour simplement vous inviter à cette réflexion par rapport à la Bible en tant que le message de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a un grand débat par rapport à toutes les traditions de traduction, si c'est les textes majoritaires, minoritaires. Mais croyez-moi, c'est un débat-combat. Qui est axé sur les petites différences, mais on n'en parle jamais de l'équivalence et la similitude qu'il y a entre les deux traditions, qui est au-dessus de 99%. Donc on a toute la certitude aujourd'hui que ce livre-là, c'est vraiment le témoin de la parole de Dieu, c'est le témoin du message de Dieu. Quelle est la place que la parole de Dieu a dans nos vies ? Est-ce qu'elle est là pour nous guider ? Est-ce qu'elle est là pour nous consoler ? Est-ce qu'elle nous console ? Est-ce qu'elle est notre refuge? Est-ce qu'elle nous édifie? Est-ce qu'elle produit de la paix en nous? Qu'est-ce qu'elle est pour nous? Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Parce que ce Dieu qui a décidé, lui, c'est pas nous, c'est Dieu qui a décidé de se dévoiler à nous davantage par l'Écriture. Les derniers versets de chapitre 20 de Jean nous disent que ces textes-là ont été écrits pour que nous, servant à la connaissance du Christ. Et même Jean, il rajoute, on aurait pu écrire encore plus de témoignages. Mais Dieu, il a décidé de faire une sélection de ces témoignages juste pour nous montrer qu'il nous aime, qu'il est notre Créateur. Il aurait pu faire un traité de géologie en Genèse, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que son but, ce n'est pas que nous donner un cours de géologie. Il veut tout simplement que par la foi, nous accédons à lui, que par la foi, nous croyons en lui comme le Dieu vrai, le Dieu, l'unique Dieu, le vrai Dieu, le Dieu créateur, celui qui nous aime et qui est avec nous, là, aujourd'hui, maintenant et demain. Merci.
Très vaste sujet que la parole de Dieu. C'est bien pour ça que je pense qu'il faut qu'on y puise nos...